Eh bien, mon cher amour, pour récompenser aujourd'hui ta délicate complaisance, je vais livrer à tes ardeurs une jeune fille vierge et plus belle que l'amour.
Comment ? Avec Dolmancé, tu fais venir une femme chez toi ?
Il s'agit d'une éducation. C'est une petite fille que j'ai connue au couvent l'automne dernier, pendant que mon mari était au zoo. Là, nous ne pûmes rien, nous n'osâmes rien, trop Dieu était fixé sur nous. Mais nous nous promîmes de nous réunir dès que cela serait possible. Uniquement occupée de ce désir, j'ai pour y satisfaire fait connaissance avec sa famille. Son père est un libertin que j'ai captivé. Enfin, la belle vient, je l'attends, nous passerons 2 jours ensemble. 2 jours délicieux. La meilleure partie de ce temps, je l'emploie à éduquer cette jeune personne. Dolmancé et moi, nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné. Nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie. Nous lui inspirerons nos désirs, et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on démontre à mesure qu'on dissertera, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de Cythère, Dolmancé, à celle des roses de Sodome. J'aurai 2 plaisirs à la fois, celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans nos filets. Eh bien, chevalier, ce projet est-il digne de mon imagination ?
Il ne peut être conçu que par elle, il est divin, ma sœur, et je te promets d'y remplir à merveille le rôle charmant que tu m'y destines. Ah, friponne, comme tu vas jouir du plaisir d'éduquer cet enfant, quel délice pour toi de la corrompre, d'étouffer dans ce jeune cœur toutes les semences de vertu et de religion qui placèrent ses institutrices. En vérité, cela est trop roué pour moi.
Il est bien sûr que je n'épargnerai rien pour la pervertir, pour dégrader, pour culbuter en elle tous les faux principes de morale dont on aurait pu déjà l'étourdir. Je veux, en 2 leçons, la rendre aussi scélérate que moi, aussi impie, aussi débauchée. Préviens Dolmancé, mets-le au fait dès qu'il arrivera pour que le venin de ses immoralités, circulant dans ce jeune cœur avec celui que j'y lancerai, parvienne à déraciner dans peu d'instants toutes les semences de vertu qui pourraient y germer sans nous.
Il était impossible de mieux trouver l'homme qu'il te fallait. L'irreligion, l'impiété, l'inhumanité, le libertinage découlent des lèvres de Dolmancé, comme autrefois l'onction mystique de celle du célèbre archevêque de Cambrai. C'est le plus profond séducteur, l'homme le plus corrompu, le plus dangereux. Ah, ma chère amie, que ton élève réponde aux soins de l'instituteur, et je te la garantis bientôt perdue.
Cela ne sera sûrement pas long avec les dispositions que je lui connais.
Mais dis-moi, chère sœur, ne redoutes-tu rien des parents si cette petite fille venait à jaser quand elle retournera chez elle ?
Ne crains rien. J'ai séduit le père. Il est à moi. Faut-il enfin te l'avouer ? Je me suis livrée à lui pour qu'il ferme les yeux. Il ignore mes desseins, mais il n'osera jamais les approfondir. Je le tiens.
Tes moyens sont affreux.
Voilà comme il les faut pour qu'il soit sûr.
Et dis-moi, je te prie, quelle est cette jeune personne ?
On la nomme Eugénie. Elle est la fille d'un certain Mistival, l'un des plus riches traitants de la capitale, âgée d'environ 36 ans. La mère en a tout au plus 32, et la petite fille 15. Mistival est aussi libertin que sa femme est dévote. Pour Eugénie, ce serait en vain, mon ami, que j'essaierais de te la peindre. Elle est au-dessus de mes pinceaux. Qu'il te suffise d'être convaincu que ni toi ni moi n'avons certainement jamais rien vu d'aussi délicieux au monde.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode des yeux ont des oreilles. Aujourd'hui, pour vous, bande de voyeurs, oui à la radio ai-je besoin de rappeler le titre de l'émission, c'est Mathilde, enfin, après des mois de contenance et de réserve et de sagesse, qui nous a proposé un thème pour l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfance pervertie. I love little girls, they make me feel so good. Bon, ça commence très fort, et je promets de ne pas passer de choses plus affreuses en jingle pour cette émission, il y en a déjà assez dans les textes. Ces textes, justement, ils ont des auteurs, mais ils ont surtout des lecteurs, et vous avez déjà eu le plaisir sadique d'entendre Céline et Mathilde en début d'émission. Sadique oui, car il s'agissait d'un extrait de La philosophie dans le boudoir de ce cher marquis de Sade. Les filles, quelque chose à dire pour votre défense ?
Non, malheureusement, j'ai vraiment apprécié lire ce texte.
Ah, moi aussi, je suis
un peu perverse, Céline.
D'accord. Et très bien. Et Agère, tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins. Bonjour, Agère. Une réaction.
Non, ça me laisse pantoise.
D'accord. Bien, je sens que la discussion va être très piquante. Pour l'instant, Agère, tu vas prendre la relève avec l'extrait suivant. Les poètes de 7 ans de Rimbaud, pour continuer en beauté.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant des tics noirs, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcre hypocrisie. Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés, voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver, s'illunait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié! Ses enfants seuls étaient ses familiers. Qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puants la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard, qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'Indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et, par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve, il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul, et couché sur des pièces de toile, écru et pressentant violemment la voile.
On a failli vous proposer un truc gentil dans cette émission avec les malheurs de Sophie, dédicace à ma maman. Mais Agère nous a confié qu'elle avait horreur du générique du dessin animé étant petite. Bon, on en reparlera dans la discussion. Dans la longue liste des textes où des enfants font des bêtises, on a entre autres sélectionné La potion magique de Georges Bouillon, un livre pour enfants de Roald Dahl, moins connu que Charlie et la chocolaterie, mais tout aussi drôle. Georges s'assit à la table de la cuisine. Il tremblait encore. Oh, comme il détestait grand-ma! Il haïssait vraiment cette horrible vieille sorcière. Et tout à coup, il eut terriblement envie de faire quelque chose. Une chose énorme. Une chose absolument terrifiante. Une chose abominable. Une véritable bombe. Il voulait chasser cette odeur de sorcellerie qui flottait autour de la mégère. Il n'avait que 8 ans, certes, mais c'était un courageux petit garçon. Il était prêt à défier la sorcière. « Je ne vais pas me laisser terroriser », se dit-il. Mais il était bel et bien terrorisé. C'est pourquoi il voulait se débarrasser d'elle sur le champ. Enfin, pas tout à fait. Il voulait la secouer un peu. Exactement, la secouer. Mais qu'inventer d'énorme, de terrifiant, d'explosif ? Il aurait bien mis un pétard sous son fauteuil, mais il n'avait pas de pétard. Il aurait bien aimé lui glisser un long serpent vert dans le cou, mais il n'y avait pas de long serpent vert. Il aurait bien aimé lâcher six gros rats noirs dans la pièce où elle se trouvait, mais il n'avait pas six gros rats noirs. Georges réfléchissait à ce passionnant problème lorsque son regard tomba sur la potion brunâtre de grand-ma posée sur le buffet. Encore un sale truc, on glissait dans la bouche de grand-ma une cuillerée de ce médicament quatre fois par jour, mais il ne lui faisait aucun bien, il restait toujours aussi épouvantable. En principe, un médicament doit améliorer la santé des gens, s'il n'y réussit pas, il ne sert à rien. Oh, oh, pensa soudain Georges. Ha ha, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais lui préparer une nouvelle potion. Une potion si forte, si violente et si fantastique qu'elle la guérira complètement ou lui fera sauter la cervelle. Je fabriquerai une potion magique, un médicament qu'aucun médecin n'a inventé jusqu'à présent. Georges regarda l'horloge de la cuisine. Il était 10h05. Il avait presque une heure devant lui puisque grand-ma devait prendre son médicament à 11h. « Allons-y !» s'écria Georges en se levant d'un bond. « Vive la potion magique ! Une puce, un pou, une punaise des bois, deux gros escargots et trois lézards gras, un serpent de mer tortillant, gluant, du jujubier, le jus de fruit, la poudre d'os d'un marsupilami, et puis mille et un autres produits, sentez-vous ? Vraiment répugnant. Je remue, fais bouillir longtemps. Belle mixture en vérité. C'est prêt, bouchez-vous le nez. »
Dans un petit plat à pain, pierre qui sent de lézard,
et un peu de sucre en poudre.
À l'instant, sur Transistor, la reprise par Chinese Man de la fameuse chanson du pudding à l'arsenic du dessin animé Astérix chez Cléopâtre. Avouez que c'était votre chanson préférée à l'époque, enfant sadique que vous étiez. Non, 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 ne niez pas. L'hypocrisie, c'est plutôt du côté de Rousseau qu'il faudrait la chercher. Eh oui, désolé Jean-Jacques de te casser encore du sucre sur le dos, mais bon, il faut avouer que quand on lit tes confessions, on comprend beaucoup mieux pourquoi tu as voulu soulager tes consciences en écrivant un traité sur l'éducation. Mathilde, l'épreuve accablante.
Il est bien difficile que la dissolution d'un ménage n'entraîne un peu de confusion dans la maison, et qu'il ne s'égare bien des choses. Cependant, telle était la fidélité des domestiques et la vigilance de monsieur et madame Lorenzi, que rien ne se trouva de manque sur l'inventaire. La seule mademoiselle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose et argent déjà vieux. Beaucoup d'autres meilleures choses étaient à ma portée. Ce ruban seul me tenta, je le volai, et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et enfin je dis en rougissant que c'est Marion qui me l'a donné. Marion était une jeune moriennoise dont madame de Vercellis avait fait sa cuisinière quand, cessant de donner à manger, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de bon bouillon que de ragoût fin. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. D'ailleurs, bonne fille, sage et d'une fidélité à toute épreuve. C'est ce qui surprit quand je la nommai. L'on avait guère moins de confiance en moi qu'en elle, et l'on jugea qu'il importait de vérifier lequel était le fripon des deux. On la fit venir, l'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban. Je la charge effrontément. Elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons, et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance, mais sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui ne m'a jamais fait de mal. Et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma déclaration et lui soutiens en face qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer et ne me dit que ces mots. « Ah, Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. Voilà tout. » Elle continua de se défendre avec autant de simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de supposer, d'un côté une audace aussi diabolique et de l'autre une aussi angélique douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour moi, Dans le tracas où l'on était, on ne se donna pas le temps d'approfondir la chose, et le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été vaine, elle ne cesse pas un seul jour de s'accomplir. J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie, mais il n'y a pas d'apparence qu'elle ait après cela trouvé facilement à se bien placer. Elle emportait une imputation cruelle à son honneur de toute manière. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin c'était un vol, et qui pisait employé à séduire un jeune garçon. Enfin, le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de vie s'était réunie. Je ne regarde pas même la misère et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposée. Qui sait à son âge où le découragement de l'innocence avilie a pu la porter ? Et si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre pire que moi.
J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là.
Pardonnez-moi, je suis absolument désolé de vous infliger cette musique si niaise et si entêtante, mais je devais profiter de l'occasion. Elle ne se représentera pas de sitôt. C'était malheureusement Sabine Paturel et les bêtises. Ah là là, les folles années 80.